Bonjour, je suis Vincenzo Genovese, journaliste à Bruxelles, où je suis l'actualité européenne.
Bonjour, moi c'est Hermine Dansil, je suis également journaliste à Bruxelles et je collabore avec Vincenzo sur ce podcast. Le sujet d'aujourd'hui est la montée de l'extrême droite en Europe et ses conséquences probables sur la prochaine législature du Parlement européen, qui sera inévitablement marquée par une augmentation du nombre des eurodéputés appartenant à cette mouvance. Dans un grand nombre des 27 États membres de l'Union européenne, ces partis ultranationalistes gagnent du terrain à la prochaine élection européenne de juin. Certains ont déjà triomphé lors de récentes élections nationales, comme les Frères d'Italie, Fratelli d'Italia dans la péninsule, ou le Parti pour la liberté, Partij voor de Vrijheid, aux Pays-Bas. D'autres ont fait leur entrée dans des gouvernements régionaux, comme Vox en Espagne, ou encore ont longtemps occupé le devant de la scène politique, comme le Parti Droit et Justice, le PiS de Pologne. Ces forces politiques partagent des similitudes. Souvent dirigées par un chef de parti charismatique, elles ont tendance à être souverainistes et protectionnistes. Elles sont profondément conservatrices et autoritaires, partageant un discours contre l'immigration irrégulière et s'opposant à la poursuite de l'intégration européenne. Mais elles sont également divisées sur certaines questions clés, telles que la position sur la guerre en Ukraine. Au Parlement européen, ces factions ne forment pas un groupe politique uni, mais deux groupes distincts, le groupe des conservateurs et réformistes européens, le CRE, et le groupe Identité et démocratie, ID. Avec respectivement 68 et 59 députés européens, ces groupes sont les 5e et 6e groupes politiques les plus importants de l'actuel hémicycle, s'opposant à la majorité interparti, fondée par le Parti populaire, le PPE, les socialistes du CND, les libéraux de Renew ou Renouveau, et les Verts. Cependant, comme on s'attend à ce que ces partis nationalistes augmentent en représentants élus, le scénario des équilibres politiques au Parlement européen pourrait radicalement changer après les élections de juin. Selon les dernières prévisions du groupe de réflexion ECFR, l'ID obtiendrait 98 sièges et le CRE 85, en lice pour devenir les 3e et 4e groupes les plus importants de l'Assemblée européenne. Et cela pourrait changer la donne dans la politique européenne, note Marco Zanni, député européen de la Ligue italienne et actuel président de l'ID.
Je l'ai rencontré à l'issue d'un débat lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Marco Zanni, quelles sont vos ambitions pour la prochaine législature?
Nous nous sommes fixés pour objectif de peser de plus en plus lourd au sein du Parlement, où nous espérons que la majorité changera et il est évident qu'un plus grand nombre de nos députés y contribuera. Mais même si ce n'est pas le cas, nous savons que le Parlement sera très fragmenté au cours des 5 prochaines années. Le pacte de coalition actuel, qui est déjà en difficulté ces dernières semaines et lors des dernières sessions plénières, sera encore plus en difficulté dans les 5 prochaines années. Et c'est pourquoi nous voulons faire en sorte que nos votes pèsent davantage dans le contexte d'un Parlement divisé.
Les groupes d'extrême droite ne peuvent pas obtenir à eux seuls une majorité de 361 députés européens. Néanmoins, ils pourraient être en mesure d'unir leurs forces à celles du Parti populaire européen de centre-droit, le PPE, pour former un nouveau bloc de droite. Cela briserait l'alliance entre le PPE et les socialistes et démocrates du SND, qui a dominé la politique européenne jusqu'à présent. En fait, c'est le modèle du gouvernement actuel en Italie, où les partis qui siègent au Parlement européen, au PPE, au CRE et à l'ID, sont ensemble à la tête du pays.
L'Italie est d'ailleurs le seul pays de l'UE qui compte deux partis d'extrême droite puissants. Marco Zanni, votre groupe est-il prêt à rejoindre la majorité au Parlement européen?
Nous excluons d'office de former une majorité avec la gauche et les Verts, parce que la distance politique est sidérale. Nous les tenons pour responsables des échecs que nous avons connus en Europe au cours de ces 30 années de gouvernance, en particulier le groupe socialiste avec le PPE. Nous avons donc besoin d'un changement de rythme, d'une majorité plus cohérente. C'est pourquoi nous excluons une majorité absolue avec les socialistes. Nous verrons, au lendemain des élections, quelles seront les propositions. Nous ne disons pas oui ou non à qui que ce soit a priori. Nous écouterons, nous demanderons un changement de rythme, c'est la seule exigence politique, et nous déciderons qui soutenir, qui ne pas soutenir, et s'il y a une possibilité de majorité alternative.
Toutefois, pour que son groupe réussisse, M. Zanni souhaite une plus grande coopération entre eurodéputés.
Pensez-vous qu'une meilleure cohésion soit suffisante pour que ces groupes pèsent plus, M. Zanni?
Le défi pour le groupe ID, compte tenu de ce grand nombre, sera précisément de faire en sorte que nos votes comptent, ce qui signifie peut-être un changement de rythme au sein de ce groupe par rapport à ce que nous avons vu dans le passé. Donc, plus de coordination, plus de consultation entre les délégations, précisément parce que le fait d'être unis nous donnera un avantage de négociation beaucoup plus important dans ce pacte de coalition potentiellement faible et un Parlement qui cherchera probablement des majorités modulaires sur des questions individuelles.
Le manque d'unité est en effet un problème majeur qui ne se pose pas seulement pour le groupe ID, mais peut-être aussi pour l'ensemble des partis nationalistes. En effet, il est plus difficile d'unir ces partis nationalistes sur des positions supranationales, justement. Ensemble, les deux groupes nationalistes pourraient même former la plus grande famille politique du Parlement européen. Mais pour Nicola Procaccini, député européen du parti Frères d'Italie, donc Fratelli d'Italia, et coprésident de l'autre groupe conservateur, le CRE, une fusion entre les deux groupes n'est pas envisageable.
Je l'ai interviewé lors de la même session plénière, très chargée, à Strasbourg. Nicola Procaccini, y a-t-il une chance que vous fusionniez avec ID pour former un grand groupe nationaliste à droite?
Cette possibilité n'est pas envisagée parce que nous sommes deux groupes différents avec des spécificités politiques différentes. Celui que j'ai l'honneur de présider est issu d'une tradition politique conservatrice qui a des racines et des caractéristiques différentes de ID, avec lequel nous travaillons bien, tout comme nous travaillons bien avec le PPE et parfois même avec Renew Europe. Mais nous sommes différents.
L'union du CRE et de l'ID est donc presque impossible, et c'est aussi en raison de l'équilibre interne des pouvoirs entre les deux groupes. En avril 2021, une rencontre entre Matteo Salvini, chef de file du parti de la Ligue, Lega, l'autre gros parti nationaliste italien, et les premiers ministres polonais et hongrois de l'époque, Mateusz Morawiecki et Viktor Orban, étaient censés être la première étape vers la construction d'une renaissance européenne. Mais rien de concret n'en est ressorti. Un scénario plus probable serait que l'un des deux groupes attire de nouveaux partis d'extrême droite européens, peut-être même en volant des membres à l'autre groupe, comme lorsque, début février, le parti français Reconquête d'Éric Zemmour a rejoint les conservateurs et réformistes européens, lui apportant un eurodéputé, précédemment ID, Nicolas Bay.
Mais les gants les plus importants pour les conservateurs et les réformistes pourraient venir de Hongrie. Les partis du premier ministre Viktor Orban, les Fidesz, faisaient partie du PPE jusqu'en mars 2021. Il y avait été suspendu à partir de 2019 en raison de divergences croissantes avec les autres membres. En effet, la position eurosceptique de M. Orban n'était plus acceptable pour les autres membres du groupe. Une modification ultérieure du règlement antérieur du groupe, qui a facilité la suspension de ses membres, a été la goutte d'eau qui a fait déborder les vases pour les membres du Fidesz, qui ont claqué la porte du groupe. Les 13 députés européens du Fidesz n'appartiennent à aucun groupe politique pour le moment, et c'est ainsi qu'ils termineront leur mandat. Mais après les élections, une nouvelle composition est plus que probable. Viktor Orban lui-même a déclaré aux journalistes qu'il était prêt à rejoindre les partis CRE après le mois de juin. L'accueil du parti Fidesz pourrait fortement influencer la vision du groupe sur l'Union européenne. Alors que les partis de l'ID sont généralement des souverainistes, pour réduire, soutenant même dans certains cas les référendums pour quitter l'UE, les CRE une position plus complexe, plus élaborée. Monsieur le Président Procaccini, quel est le sens de votre groupe politique?
Nous sommes une force de droite conservatrice et modérée qui croit en l'Europe, mais qui croit en l'idée originale de l'Europe, qui n'est pas celle de l'Europe fédéraliste, qui semble malheureusement gagner du terrain chez certains membres du PPE, nous pensons que le modèle européen doit être le modèle confédéral, qui ne fait pas disparaître les nations, comme le fait le modèle fédéraliste, mais qui les renforce et les rassemble sur quelques points importants, plutôt que sur une myriade de questions qui envahissent et pénètrent la vie de tous les citoyens européens.
La grande question est maintenant de savoir ce que l'extrême droite fera ou ne fera pas si elle arrive au pouvoir après les élections.
Pour tenter de répondre à cette question, je me suis entretenu avec Doru Francescu, expert de la matière et fondateur de U-Matrix, un groupe de réflexion sur la politique européenne basé à Bruxelles. Selon M. Francescu, de nombreux partis d'extrême droite se considèrent comme pro-européens, bien qu'ils ne soient pas perçus comme tels à Bruxelles. Vous dites qu'il convient donc d'être plus nuancé lorsqu'on les qualifie d'eurosceptiques?
Le paysage est devenu plus nuancé qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, certains partis du continent critiquent certaines politiques spécifiques, comme la politique économique, la politique migratoire ou l'intégration culturelle, alors qu'ils soutiennent la défense, l'intégration ou le marché unique. Et c'est le cas pour de nombreux partis du CRU. Il y a donc des nuances et nous devons y prêter attention. Car, par exemple, aux États-Unis, si un parti critique certaines politiques à Washington, on ne l'appelle pas « américano-sceptique ».
Vous dites d'ailleurs que certains partis sont eurosceptiques parce qu'ils ont l'impression d'avoir peu d'influence sur le processus décisionnel à Bruxelles. Pensez-vous qu'ils deviendront plus pro-européens lorsqu'ils auront plus de poids dans le jeu ?
Il y a une chance qu'ils modèrent leur position. Pas tous, mais certains d'entre eux. Parce que s'ils veulent devenir des partis traditionnels, s'ils veulent être au gouvernement et assumer la responsabilité de gouverner, alors bien sûr, ils doivent se comporter de manière plus responsable et donc commencer à changer leur politique.
Pour Doru Francescu, un tournant se produit généralement lorsqu'un parti d'extrême droite dirige un gouvernement national. Exactement comme ce qui s'est passé dans le cas des Frères d'Italie.
Doru Francescu, che fait le Parti nazionaliste Fratelli d'Italia au niveau européen maintenant qu'il dirige le gouvernement italien?
Bientôt, ils enverront également un commissaire européen. Ils auront un autre moyen d'influencer les politiques à Bruxelles. Ils font donc partie du jeu. Et ils veulent faire partie du jeu, en particulier Giorgia Meloni. D'autres partis, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen, la situation est un peu différente. Ils ne font pas partie du gouvernement. Ils ont très peu de liens avec Bruxelles.
Le plus grand changement dans la future politique européenne pourrait ne pas venir directement des groupes d'extrême droite ou nationalistes de l'hémicycle européen, mais plutôt de leur influence possible sur le parti de droite modéré, le PPE. Ce dernier devrait être confirmé comme le groupe le plus important dans les sondages, mais il conservera sans doute à peu près sa taille actuelle, tandis que ceux qui se trouvent à sa droite augmenteront leur nombre de sièges. Quel sera donc l'impact pour le Parti populaire, M. Francescu ?
Politiquement, le PPE sera dans une position très délicate, parce qu'ils devront faire des choix délicats pour savoir s'ils doivent créer des coalitions avec les forces centristes, Renew et les socialistes, ou plutôt naviguer vers la droite et faire des coalitions avec le CRE et même les nationalistes d'idées, ce qui les mettrait dans une position délicate sur le plan électoral.
Avec un Parlement européen qui devrait pencher fortement à droite, cette élection aura un impact majeur sur l'avenir de la politique de l'UE dans de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne son engagement en faveur de la transition climatique et environnementale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Plus d'informations et de réflexions sur les institutions européennes et les politiques européennes dans le prochain épisode de Voix de Bruxelles. Restez à l'écoute.